Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudouin, je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis une fois de plus ravie de vous accueillir ici. Pour faire simple, l'objectif de ce podcast est qu'à la fin de chaque épisode, vous repartiez avec une histoire de vie inspirante et un outil concret sur un thème de développement personnel. Pour cela, j'interviewe pour vous des personnes qui nous racontent leur parcours, leur expérience et leur philosophie de vie. Et je partage ensuite avec vous une clé, c'est-à-dire un outil concret pour vous permettre de mettre en application le thème de l'épisode. Sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'écouter mon invité. Il s'appelle Sébastien Arquier. Sébastien, c'est simple, il a réalisé 2 fois le tour du monde. Mais je ne vous en dis pas plus, je le laisse tout vous raconter. Et quant à moi, je vous retrouve en solo juste après cette interview pour vous partager la clé du jour. Bonjour Sébastien.
Bonjour Catherine.
Écoute, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast. Et j'espère que tu vas nous faire voyager, parce que c'est un petit peu le
ouais.
thème. Justement, moi, ce qui m'a donné envie de t'inviter ici, c'est parce qu'un jour, en faisant des recherches sur toi et ton entreprise, hein, j'avais envie de découvrir ton activité, j'ai découvert sur Internet que tu avais réalisé 2 tours du monde, notamment.
Oui.
Donc, si tu veux bien, j'ai envie qu'on en parle aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais juste commencer par nous dire en quelques mots qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens?
Eh bien écoute, j'ai 41 ans, j'ai marié trois enfants et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à différents postes dans les ressources humaines,
D'accord.
à différentes fonctions. Et surtout, je crois que je suis un entrepreneur dans l'âme, que j'adore expérimenter, j'adore découvrir et j'adore apprendre. Et qu'en fait, c'est un peu ce qui m'a guidé tout au long de ma carrière et de ma vie personnelle.
D'accord. Mais alors du coup, tu viens d'où ? Enfin, tes parents, ils faisaient quoi ? T'as grandi dans quel environnement pour en arriver à faire ça et à dire qu'aujourd'hui, t'es un entrepreneur dans l'âme ?
Alors, j'ai grandi en banlieue parisienne.
Okay.
Mes parents étaient pas... Enfin, mon père était entrepreneur et ma mère, prof.
Mm-hmm.
Et donc, j'ai grandi, j'ai fait toute ma vie, ma scolarité en banlieue parisienne et sur Paris.
Okay.
Donc, je suis plutôt un parisien, je suis plutôt un urbain. J'adore la ville.
Okay.
J'adore ce qui se passe en ville. Et puis, à la suite d'un premier voyage, je suis arrivé à Reims, donc il y a 13 ans maintenant.
D'un premier voyage
Mon premier tour du monde m'a fait atterrir à Reims en revenant.
Bon, ça, on va y revenir à ton premier tour du monde, parce que ça m'intéresse. Donc, tu as fait des études, tu as fait quel parcours
Et donc, j'ai fait du droit à l'université pendant 2 ans. Une superbe expérience humaine,
D'accord.
une superbe expérience enrichissante, une expérience universitaire en termes de diplôme moins réussie. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément l'objectif non plus, et ce n'était pas forcément en fait, ce que je retiens de cette époque-là. Je pense que les études de droit, ça m'a apporté une culture générale et un intérêt pour ce qui se passe dans le monde, et comprendre ce qui s'y passe, et avoir les clés pour comprendre ça avec une conscience politique autour de tout ça, qui m'a passionné à ce moment-là.
Mmh.
Et puis après, j'ai fait un BTS, assistant de gestion, PME-PMI.
Mmh.
Et puis j'ai commencé ma vie active juste après le BTS.
Et à ce moment-là, donc, en région parisienne ?
À ce moment-là, en région parisienne, c'est chez SFR, effectivement.
D'accord.
Et par la suite, il y a quelques années, j'ai fait un Master 2 en ressources humaines.
Ok.
En même temps que mon activité professionnelle. Donc pendant 1 an et demi, j'ai jonglé entre mes responsabilités de directeur et mon statut d'étudiant à l'IAE à Paris.
D'accord.
Et une époque bénie parce que j'ai adoré tout ce que j'ai fait pendant cette époque-là.
D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à faire ton premier tour du monde ?
Alors, mon premier tour du monde, c'est une rencontre. Enfin, c'est plus qu'une rencontre, c'est 2 amis dont une était témoin de mon mariage.
D'accord.
Donc une vieille connaissance elles sont parties toutes les deux faire le tour du monde.
D'accord.
Et en revenant, ça s'est synchronisé avec notre mariage.
Ok.
Quand on se marie, on a envie de faire des choses différentes, on a envie de vivre notre vie, on est jeune Et puis on rencontre deux copines qui en reviennent, qui partagent
des
choses.
Qui nous font rêver.
Qui nous font rêver. Et à un moment, un soir, c'est le déclic et on se décide et on y va.
Mais alors, ce déclic-là, il se produit comment? Comment t'as pris la décision? Ou en tout cas, comment vous avez pris la décision, au-delà du rêve, de dire oui, on en rêve, mais là, on y va, on le fait.
Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on porte en nous. C'est vraiment quelque chose qu'on porte en nous. Hein. C'est le désir de découvrir, le désir d'aventure, le désir d'aller rencontrer d'autres personnes, de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Ça, c'est vraiment le désir. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui me pose beaucoup de questions sur ce genre de choses. Moi, les défis, l'aventure, la liberté, c'est un peu ce qui me porte. Et donc voilà, donc peut-être que j'étais un petit peu plus moteur à ce moment-là dans le couple, mais après, c'est le projet qui s'est dessiné, c'était un projet à deux, c'était un projet d'évasion.
D'accord. Et ça, tu penses que ça devient de où, cette curiosité, cette envie de découvrir, de relever des défis? Est-ce que c'était comme ça déjà quand tu étais petit, avec tes parents, dans ta famille?
Alors moi, j'ai eu énormément de chance de faire deux choses très importantes dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. La première chose, c'est que j'avais des fonctions d'encadrement chez les scouts.
D'accord.
Et chez les scouts, on relève les défis et on apprend à être ensemble, on apprend à réaliser des choses ensemble. Et donc concrètement, il y a beaucoup de choses qui se passent. On est moteur, on a envie de progresser, on a envie d'apprendre, donc on n'a pas peur déjà. Et donc quand on n'a pas peur, on peut faire des belles choses. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été aussi dans les mêmes années moniteur de voile en Bretagne, et donc je partais avec des jeunes pendant plusieurs semaines tous les étés. Faire du bateau, et on emmenait des jeunes pendant plusieurs jours sur des bateaux, on dormait sur le bateau, on vivait comme ça.
D'accord.
Et donc là, on touche autre chose, là on touche l'évasion, on touche le rêve, on touche tout ce qui touche à l'océan, à la mer, à la nature, et donc on a envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de l'océan.
Ouais.
Et donc voilà, donc si on n'a pas peur et qu'on a envie d'y aller, ça facilite les choses.
Ouais. Alors la peur, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, ça m'intéresse particulièrement. Juste pour se resituer, donc ton premier tour du monde, donc j'ai bien compris, finalement il est arrivé peu de temps après ton mariage, c'est ça? Et d'un point de vue professionnel, à ce moment-là, ça arrive à quel moment dans ta vie?
Alors ça tombe très mal, ça tombe très mal parce qu'à l'époque, je travaillais chez SFR et je venais d'avoir une promotion que j'avais attendue un petit peu, pour laquelle je m'étais battue et que j'ai eue 6 mois avant.
Donc la décision était déjà prise ou pas?
Non, la décision n'était pas prise.
Mais
la décision, l'idée était en train de germer.
Okay.
Et la décision est tombée 6 mois après ma prise de poste.
D'accord.
Et puis ça tombait très mal parce que mon épouse était diplômée depuis moins d'un an.
Ok.
Et était sur sa première activité professionnelle et donc en pleine phase de formation
et de construction du
projet professionnel.
D'accord. Et alors ça, tous ces éléments-là, finalement vos vies respectives professionnelles, ça n'a pas été un frein? C'était pas le bon moment, mais malgré tout, ça n'a pas été un frein pour prendre la décision?
Non, et je pense que même ça a été un déclic pour moi, parce qu'en fait, on se bat pour avoir une promotion qui a beaucoup de sens quand on est jeune, parce qu'on cherche la reconnaissance, on cherche plein de choses, et puis ça m'intéressait. Et puis je me suis dit à ce moment-là, dès ce moment-là, que la vie, c'était pas que ça. Et donc c'était pas que la promotion. À l'époque, je travaillais chez SFR à la Défense, au 33e étage d'une tour où il y avait beaucoup de monde, où on était un peu anonyme, etc. Et donc le déclic, ça a été mais ta vie pro, ça peut pas être que ça, ça peut pas être tracé comme ça, et c'est pas comme ça que t'as envie de la faire.
En tout cas, ta vie, c'est pas que ça.
Ça peut pas être que ma vie pro, ça peut pas être l'anonymat d'une multinationale, ça peut pas être le manque d'autonomie, le manque de décision, j'avais envie d'être plus acteur de ce qui était en train de se passer dans ma vie.
En fait, c'est hyper intéressant ce que tu es en train de dire, parce que finalement, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que là où parfois pour certaines personnes, la situation professionnelle peut être un frein, parce qu'on pourrait se dire, tiens, là je viens d'avoir le poste que je convoitais, donc je peux pas bouger, je peux pas partir, ou je peux pas me lancer dans tel ou tel projet parce que je dois me consacrer à cette activité-là. Donc des fois c'est un frein, ou même parfois pour une femme, hein, de dire bah, tiens, je veux un enfant, mais c'est pas le moment.
Bien sûr.
Finalement, toi, t'en as fait une force. Enfin, c'est ça qui a été pour toi l'élément, éléments déclencheurs.
Bien sûr. Et c'est. J'ai envie de dire, c'est sa force à se poser les vraies questions.
Okay.
Qui sont qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que c'est cette direction-là que j'ai envie de donner à mon couple, à ma famille, à ma vie professionnelle? Est-ce que je veux être acteur dans ce sens-là ou est-ce qu'il y a une autre voie? Et donc j'étais propriétaire à l'époque d'un appartement à Nières-sur-Seine et que j'avais acheté 2 ans avant.
Mm-hmm.
Donc pareil, c'était pas le moment non plus de se dire
on vend ou on loue.
Mais à un moment, moi je crois réellement, enfin c'est vraiment une de mes convictions personnelles, c'est qu'on est responsable de, on a une vraie liberté, on est vraiment responsable de notre vie quoi.
D'accord.
Et toutes les personnes qui veulent nous retirer cette responsabilité en nous faisant croire qu'il y a des contraintes qui nous empêchent de faire, nous retirent de la liberté.
D'accord.
Et moi je suis très attaché à cette liberté et donc la volonté de partir était plus forte à ce moment-là que l'envie de construire une vie qui finalement correspondait pas
D'accord.
forcément à ce qu'on voulait.
Donc ce qui veut dire que ce sont vraiment les questions que tu t'es posées, c'est que finalement c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que je veux en faire, qu'est-ce que je veux faire de ma liberté, ma vie c'est pas que ma carrière, ça c'est vraiment un processus de réflexion que tu as eu.
Alors ça c'est un processus de réflexion, mais un processus dans le temps évidemment, tu vois, on s'est pas posé ces questions-là un soir en disant où est-ce qu'on en est et on part quoi. Là qu'on a décidé de partir, c'est l'enthousiasme, c'est l'intuition, il y a que l'envie qui a parlé quoi, il y a pas eu de limite, on s'est pas posé de questions, savoir où est-ce qu'on en était à ce moment-là dans nos vies. Ouais. C'est parce que ce cheminement, il s'inscrit dans la durée.
Il était mûri,
d'accord. Tout à fait.
Bon. Alors, une fois que la décision elle est prise, que le processus est mûri, que la réflexion est menée, que la décision est prise, j'imagine qu'on part pas non plus du jour au lendemain. Enfin, dans l'absolu, on peut le faire, si on veut. Mais j'imagine malgré tout qu'il y a une phase de préparation avant de partir.
Oui.
Il doit y avoir, je le suppose, ça c'est dans ce que moi j'imagine, qu'il y a un avant autour du monde, il y a le pendant et puis il y a l'après.
Bien sûr.
Comment ça se passe l'avant? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as préparé ton tour?
Alors l'avant, donc là on était en 2004, hein, donc, et en 2004 ça a duré un peu moins de 6 mois de préparation.
Okay.
Qui sont principalement dédiés à des considérations très pratiques, administratives, à la préparation d'itinéraires, de choix, de où est-ce qu'on veut aller, de comment on veut le faire, de budget, évidemment aussi.
Donc là, on se dit quoi? On veut aller où, chérie?
Là, on va où? Là, on se dit on va aller où?
D'accord.
On va aller où? Donc on prend la carte et on choisit. on fait une liste très large. Puis après, on regarde ce qui est possible, on regarde ce qui rend.
Ce qui est possible par rapport à quoi?
Ce qui est possible par rapport au timing, parce que nous, on est parti 10 mois, et donc en 10 mois, on peut faire 50 pays, on peut en faire un. Donc qu'est-ce qu'on a envie de faire? Comment on veut voyager? Qu'est-ce qui nous attire réellement?
Pourquoi 10 mois? Qu'est-ce qui vous a fait choisir?
Alors là-bas, c'était un an, et puis on est rentré un petit peu plus tôt parce qu'on a un peu glissé, on a un peu dépassé le budget, donc
d'accord. Il manquait
deux mois de... donc il fallait rentrer.
D'accord.
Et puis, c'était un an, l'idée, c'était un an de parenthèse.
L'idée, un an, d'accord, ok.
De manière assez symbolique, enfin voilà, et arbitraire. Mais donc on choisit des pays, on choisit un itinéraire, on choisit des vols, donc on choisit un budget, enfin voilà. Donc tout ça, c'est des compromis, c'est des choix, et on s'oriente.
Est-ce qu'il y a eu des choix difficiles à faire?
Non, j'ai pas eu l'impression que c'était difficile. D'autant plus qu'au final, le voyage qu'on a fait en direct, enfin en pratique, était en fait différent de celui qu'on avait imaginé.
D'accord.
En partant.
C'est-à-dire
qu'on a modifié pas mal de choses pendant le voyage.
D'accord. Donc vous avez planifié, mais finalement, c'était pas non plus booké. C'est-à-dire que vous aviez pas tous vos billets d'avion.
On n'avait pas nos billets d'avion. On pouvait en changer quelques-uns. Et puis voilà. Donc on a pas mal. On a quand même bien modifié.
Au fur et à mesure.
Et
vous avez modifié par rapport à quoi, vos envies?
Alors on a modifié par rapport à vos opportunités, par rapport aux rencontres. Je donne un exemple très pratique. On a commencé en Équateur et on voulait descendre faire l'Amérique du Sud. Et puis quand on est en Équateur, on est à à peut-être 2 heures de vol des Galapagos. Mm-hmm. Et les Galapagos n'étaient pas dans le itinéraire initial.
Okay.
Mais on rencontre d'autres voyageurs en arrivant qui nous disent « Attendez, vous êtes juste à côté des Galapagos, c'est quand la prochaine occasion d'aller visiter les Galapagos ?»
C'est vrai.
Ok, donc voilà, on y va. Okay. Donc on modifie en Australie. On voulait faire une grosse partie de l'Australie. Et puis, on avait fait d'autres choses avant. On avait fait la Nouvelle-Zélande, on avait fait la Nouvelle-Calédonie. On voulait aller en Asie un peu plus rapidement. Donc, on a raccourci. Donc, on a changé. On a adapté tout le temps.
D'accord.
Par rapport à nos envies, ce qu'on voulait faire. Donc, on apprend à se parler, on apprend à s'écouter, on apprend à rencontrer, à prendre le temps de la réflexion. Et puis voilà. Donc, ce qui est important, en fait, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'envie d'abord. Et puis c'est ce qui se passe après, quoi. C'est rester ouvert.
Il faut accepter que ça se passe pas forcément comme on avait prévu, mais accueillir ce qui se passe.
Exactement.
Alors justement, juste pour nous faire un peu rêver et voyager, est-ce que tu arriverais à nous dire là, en gros, quel pays vous avez parcouru ?
Alors en gros, on a fait beaucoup d'Amérique du Sud, parce qu'on est arrivé en Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, ensuite l'île de Pâques, la Polynésie française, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Sydney en Australie et que Sydney, et ensuite on est parti à Bali, en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et en Birmanie, et après on est rentré.
D'accord. Et alors, comment il s'est passé ce voyage ? Moi là, tu viens de me faire rêver. Comment il s'est passé ce voyage ?
Ce voyage, c'est très bien
passé. Le pendant, comment ?
Le pendant, c'est que des coups de cœur, parce qu'on était, on était jeunes, et donc on est dans la rencontre permanente, quoi. Il y a nos limites. On est ouvert à tout ce qui se passe.
On profite, on rencontre,
on s'adapte. On est bien, on reste. Le lendemain, on va partir là-bas parce qu'on a rencontré des gens qui partaient là-bas. On y va avec eux. Voilà.
Alors là, pour le coup, liberté totale.
Liberté totale. Et puis avec un... Alors, il y a autant de voyages que de voyageurs. Et il y a autant de façons de voyager que de voyageurs. Et moi, je suis très attaché à ça parce que je ne veux surtout pas être dans l'optique de donner des leçons sur la manière de voyager. Il y a suffisamment de personnes, effectivement, qui fonctionnent comme ça, y compris sur les forums. Donc, c'est important de se dire le voyage, c'est mon voyage. Et voilà. Donc, nous, on a fait ça beaucoup en respect des gens qu'on rencontrait. S'intéresser le plus possible à ce qu'ils étaient en train de se passer. Et puis beaucoup en respect aussi de la nature. On a fait énormément de plongées sous-marines, par exemple, à ce moment-là, parce qu'on était dans des lieux magiques pour le faire. Et donc voilà.
Ok. Un coup de cœur sur un pays en particulier à ce moment-là
Il y a forcément des coups de cœur. Il y a des coups de cœur. Je pense que l'île de Pâques est un lieu absolument unique au monde.
Magique.
On a l'impression d'être sur une autre planète. Et puis Bali. Bali, et notamment le cœur de Bali. Des souvenirs d'odeurs, de parfums, d'une atmosphère hyper particulière.
Ok. Bon, attends, je me prends dans ma to-do list.
Île
de Pâques ou Bali. Ok. Ok, alors ça c'est le premier. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre de 10 mois comme ça, de liberté, d'excursion C'est quoi le après-tour du monde ?
Alors le après-tour du monde est probablement une des périodes les plus difficiles à gérer. On dit toujours qu'il faut préparer l'après-tour du monde. Je ne suis pas convaincu, parce que ça veut dire que préparer l'après-tour du monde, ça veut dire qu'on a anticipé déjà ce qui allait se passer.
D'accord.
Pendant. Or, je pense qu'il faudrait rester ouvert à ce qui se passe pendant le voyage. Pour nous, ça a été très rapidement l'envie de s'installer quelque part à proximité de Paris, dans une ville de taille moyenne, et Reims correspondait tout à fait, cochait beaucoup de cases à ce moment-là.
D'accord.
L'envie de fonder une famille très rapidement, donc on a eu notre fils aîné un an après, être rentré, donc c'est venu très très vite. Et puis rester câblé sur cette ouverture d'esprit et puis sur le prochain voyage.
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, quand vous êtes rentré, vous aviez déjà en tête un deuxième voyage ?
Alors oui, on avait déjà en tête le deuxième tour du monde, parce que pendant le premier tour du monde, on a rencontré des familles qui voyageaient.
Qui faisaient elles-mêmes
un tour du monde, avec des enfants en bas âge. Et on a vu toute l'ouverture, on a vu le confort et l'adaptabilité, la joie d'être en famille, et on a vu le bonheur des enfants. Et à ce moment-là, on s'est dit, il y en aura un deuxième avec nos enfants.
On rentre, on conçoit une famille et on repart.
Oui, on repart. Okay, en gros, c'était une certitude. C'était une certitude dès qu'on est rentré, enfin, même pendant le voyage. Enfin, mais quand on est rentré, on savait qu'il y aurait un deuxième voyage.
D'accord.
C'était décidé.
D'accord. Et alors justement, ce deuxième, il est arrivé quand? Une fois que la
Alors ce deuxième, était... il est arrivé un peu plus de 10 ans après. Donc voilà, on a eu 3 enfants entre-temps, donc il a fallu attendre qu'ils grandissent un peu avant de les emmener en voyage. Et puis après, c'est l'aventure d'une vie, hein, c'est l'aventure d'une famille, c'est l'aventure d'un couple. C'est un moment où c'est se recentrer sur qui on est et se dire, attends, on s'était promis qu'on repartira en voyage. Et là, on est en train de l'oublier. On se recentre sur ce qui est important pour nous et ce qui fait notre...
Les questions qu'on s'est posées, c'est ça dont tu as parlé au début.
Exactement.
De quel est le sens.
Exactement.
Il y a de nouveau ce processus, ce chemin.
Il y a de nouveau ce
même
processus.
Même si à la fin du premier, tu savais que tu voulais faire un deuxième, il y avait quand même eu un processus.
Oui, parce que la vie veut toujours nous rattraper. Mmh. La vie veut toujours nous rattraper avec d'autres choses, avec d'autres contraintes, avec d'autres problématiques et nous faire croire que probablement la vie doit être encore autre chose que ce qu'on avait imaginé quand on avait 25 ans.
Et que quand on a des enfants,
et que quand on a des enfants, c'est pas possible, et qu'on a lancé une carrière, c'est pas possible, et qu'on a acheté une maison, c'est pas possible, et puis le monde est dangereux, et puis c'est pas raisonnable de le faire, et puis on peut faire une liste énorme de questions comme ça. Donc on peut se laisser rattraper par ces questions-là, on peut se laisser rattraper par ces problèmes-là, et donc se recentrer, se redire qu'est-ce qui nous fait qui on est et pourquoi on l'a fait et pourquoi aujourd'hui il faut le refaire, c'est des questions qu'il faut réapprendre à se reposer régulièrement.
D'accord. Et alors là, du coup, le deuxième, donc il est arrivé, tes enfants avec quel âge?
Mes enfants avaient 6, 8 et 10.
6, 8 et 10, donc scolarisés.
Scolarisés, okay. Tout à fait.
Et alors là, alors je recommence avec ma question de l'avant, le pendant et l'après. Donc là, la préparation, elle se passe comment? Est-ce qu'elle s'est passée comme le premier tour du monde?
Alors, pas du tout, parce que d'abord, on a une expérience du voyage. Ensuite, on a des envies qui sont encore plus grandes que le premier, donc il faut apprendre à faire le tri.
Envie de quoi? D'aller voir d'autres pays?
Envie d'aller voir d'autres pays, envie de voyager différemment.
Envie de retourner dans certains aussi ou pas?
Envie de montrer aux enfants certains, tout à fait.
D'accord.
Et puis l'envie de réaliser des choses encore plus grandes. De voyager complètement différemment.
C'est-à-dire
utiliser d'autres moyens de transport. On a évoqué l'idée d'aller faire du vélo. On a évoqué l'idée de faire de l'humanitaire. On a évoqué l'idée de voyager vraiment différemment et d'avoir une autre expérience du voyage.
Ok, parce que effectivement, ça c'est une question que je t'ai pas posée. Le premier tour du monde, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était, tu sais, par exemple, il y a des gens qui partent juste avec un sac à dos, ou il y en a qui optent pour une formule plus confort, aller chez l'habitant. Enfin, pour vous, ça s'est passé comment?
Alors pour nous, ça s'est passé très simplement. On avait nos sacs à dos et puis voilà.
Et
puis voilà, donc on a utilisé les transports en commun, les transports locaux.
Vous est arrivé de dormir à la Belle Étoile?
Il nous est arrivé de dormir à la Belle Étoile. Il nous arrivait de dormir dans des hôtels complètement inconfortables.
Pas confortable.
On a dans en Nouvelle-Calédonie, on a dormi dans une tribu kanak, donc il y a eu vraiment de tout. Et juste avant, on était au Méridien, à l'île des Pins, en Calédonie. Donc voilà, on a vraiment tout fait.
T'as tout fait.
Et donc le deuxième voyage, il est aussi dans cette optique de faire les choses différemment. Mais on est 5. Et malgré tout, on part quand même avec des enfants.
Avec des enfants, donc et là, on a quand même de sécurité.
Alors, il y a tout ça. Même si on ne le porte pas, nous, eh ben, on nous dit attention. Donc, attention aux enfants. Attention, c'est dangereux. Attention, comment vous allez faire. Donc, on revient à une manière de voyager qui est relativement classique.
C'est-à-dire, quand tu me dis on ne le porte pas, nous, c'est-à-dire que toi, tu n'avais pas ces inquiétudes-là à la
non.
base, la notion de sécurité par rapport aux enfants?
Non.
C'est pas une question qui te...
C'est une question que je me posais, mais je me faisais pas de soucis sur le fait qu'on allait faire attention à eux.
Okay.
Je me faisais pas de soucis sur le fait que si c'était dangereux, on allait le voir et on allait s'écarter du danger.
Okay.
Donc
c'était pas un frein, en fait.
C'était pas un frein. Et donc voilà, on est revenu sur quelque chose d'assez classique dans la manière de voyager qui ressemblait finalement pas mal au premier voyage. Mm-hmm. Donc on a utilisé pendant, avec les enfants, on est parti 6 mois, et pendant les 6 mois, on a utilisé les transports qu'il y avait sur place, quoi.
D'accord.
Il y a deux grandes différences quand même de voyage, et c'est là où c'est important quand même, c'est que la première, c'est qu'on voyage beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et la deuxième, c'est que nous, on a opté pour une manière de voyager qui faisait qu'on avait toujours 48 heures planifiées à l'avance.
D'accord.
Et donc, ça nous a permis de faire un voyage complètement adapté à tout ce qu'on voulait. On n'a jamais prévu plus de 48 heures d'avance.
Tu savais où tu serais dans 48 heures, ouais. Où tu dormirais, voilà. Comment
Exactement.
Ok.
Exactement. Et si on était bien, on est resté. Si on n'était pas bien, on est reparti. Si on avait rencontré des gens qui nous parlaient de tel endroit, on y allait. Et donc, on a voyagé comme ça avec les enfants. Et
c'était quoi l'intérêt de ce délai de 48 heures?
C'était juste éviter les imprévus de dernière minute.
D'accord.
Quoi. Se dire, on sait où on va dormir demain. Quoi.
Okay.
C'était le petit confort.
Question pratique.
C'était la question pratique.
Et les enfants, tu les prépares comment à ce tour du monde?
Tu les impliques dans la préparation du voyage. On leur a beaucoup parlé de notre premier voyage. On les a impliqués, on les a convaincus.
Ils étaient enthousiastes aussi.
Ils étaient enthousiastes.
Les trois étaient enthousiastes.
Je dirais que le seul point d'accro, c'était les copains. Mm-hmm. Mais j'ai passé 6 mois sans mes copains.
Et donc, tu vas rencontrer tellement d'autres personnes que. Okay.
Et donc voilà. Mais sinon, évidemment, très, très enthousiastes. Et donc, on a défini le parcours ensemble, on a défini ce qu'on voulait voir. On leur a parlé des pays avant, et puis après on est parti, quoi.
Et du coup, tout naturellement, il y a une question qui me vient au sujet des enfants, c'est par rapport à la scolarité, parce qu'à ce moment-là, ils sont déjà à l'école. Comment vous avez géré ça?
Alors, figure-toi que à l'école primaire, si tu pars moins d'un an, il y a peu de personnes qui vont être gênées par l'absence de tes enfants.
D'accord, ok.
pour dire presque personne, quoi. Donc voilà, nous on est parti en août, donc ils étaient inscrits dans les classes. À la rentrée, il y avait leur nom sur le listing des classes, sauf qu'ils n'étaient
pas là.
Et ils savaient que tout le monde était au courant, les copains, la maîtresse, que en mars, ils seraient de retour, tout à fait.
Et alors du coup, vous avez mis en place un système de... Quand même, vous avez fait...
Alors on est parti avec des outils pour les faire travailler. Mmh. On s'est très vite rendu compte que c'était un métier.
Oui.
C'était pas le nôtre. et que du coup, c'était pas l'enjeu le plus important.
D'accord.
C'était pas la priorité.
Parce qu'il y a un enseignement qui est tel, de toute façon, au travers du tour du monde.
Il se passe autre chose pour eux. Et comme c'est pas notre métier, et ben on n'était pas là pour créer des tensions ou des conflits autour de l'apprentissage scolaire pendant le voyage. Donc très vite, ce sujet-là est petit à petit tombé. Petit à petit tombé.
Au risque effectivement de créer peut-être des tensions ou des choses qui auraient pu empiéter sur et gâcher un peu le voyage.
Clairement. L'objectif, c'était pas de contraintes. Donc si on commençait à mettre des contraintes sur quelque chose qu'on maîtrisait pas non plus, et puis il faut pas se tromper de rôle, enfin on est les parents, on n'est pas les instituteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous revenus en mars, et qu'entre mars et juin, ils ont rattrapé
et que tout
s'est bien passé.
Est-ce que par exemple ça leur a appris d'apprendre à parler des langues
tout à fait,
notamment, enfin je pense à ça, mais il y a peut-être d'autres choses. Hein,
mais... Non mais ça leur a appris évidemment à parler mieux anglais, voire à parler anglais, ça leur a appris à pas avoir peur des autres, aller vers des enfants avec qui ils ne partageaient aucun élément de langage, mais de jouer avec eux quand même et de passer un super moment et de se faire des copains, le temps d'une soirée, le temps d'une journée. Et ça leur a appris aussi, très important pour nous, à réagir à trois. Donc il s'est passé quelque chose entre eux.
D'accord.
Pendant ce voyage, qui a énormément resserré les liens entre frères et sœurs.
Ok. Et alors celui-ci de voyage, donc le pendant, vous avez traversé quel pays cette fois-ci?
Alors là, on est arrivé...
On voyage encore un petit peu, là.
Eh bien écoute, on a commencé par l'Inde.
D'accord.
En Inde, on est resté 40 jours.
Ok.
Ensuite, on est allé au Népal, on est allé en Chine, au Japon, en Australie et en Argentine. Donc voilà, avec à chaque fois des voyages, voilà, 40 jours en Australie, 25 jours au Japon, une vingtaine de jours au Népal, 40 jours en Chine, enfin voilà, avec du temps, on voulait aussi passer vraiment du temps sur place.
Donc encore une fois, un beau voyage.
Oui.
Par rapport au premier, est-ce que tu préfères le premier, le deuxième ou... Tu aimes les deux, enfin voilà, qu'est-ce que...
Non, j'aime beaucoup les deux, Mais je pense que, tu sais, le voyage, c'est d'une manière... Enfin, en tout cas, pour moi, ce qui résonne, c'est casser le mythe de l'impossible. Et se dire que, voilà, c'est possible de vivre des choses comme ça, qu'il faut s'écouter, qu'il faut pas avoir peur, qu'il faut pas avoir peur et se dire voilà, je ne risque a priori rien, si ce n'est d'avoir des bonnes surprises quoi.
Ouais, c'est ça. Et justement, alors là, tu me tends une perche, tu parles de la peur et je vais rebondir parce que d'ailleurs on y était tous les deux à la conférence TEDx à Reims qui a eu lieu il y a quelques jours. On a eu la chance d'entendre une personne qui est comme ça, à tout plaquer, hein, Margot Aman, qui est à tout plaquer, qui est partie habiter en Amérique latine et qui a orienté son discours sur le fait qu'effectivement, dans la vie, on a peur, les gens ont peur et que bien souvent, c'est cette peur qui nous bloque et qui ne nous permet pas d'avancer, de réaliser nos rêves. On a peur de tout et elle nous disait qu'elle, quand elle est partie, les gens lui ont dit « Oh, mais t'as peur de tomber malade, t'es une femme, tu pars toute seule, tu vas pas être en sécurité, etc. » Est-ce que... alors moi, j'ai adoré son discours et j'invite les gens à aller rechercher la vidéo
bien
pour
sûr.
L'écouter. Si je comprends bien, là, de ce que tu me dis, toi, tu n'as pas eu de peur.
Non, j'ai pas eu de peur, parce que moi justement je refuse, enfin cette thèse de la peur me convient pas, comme la thèse de vous avez eu de la chance de faire ça, qui me convient pas non plus. Et en ce qui concerne la peur, c'est très particulier, parce que nous on a commencé, le voyage avec les enfants a commencé à Mumbai.
D'accord. Donc,
et on a atterri là-bas, direct de France, enfin avec une escale, on a atterri à 2h du matin.
D'accord.
Et à 2h du matin, on arrive en Inde, on n'avait jamais mis les pieds à l'aéroport. On sort, il y avait un gars qui devait être là pour nous amener l'auberge qu'on avait réservée. Le gars n'est pas là tout de suite, il arrive, il est 2h du matin, on est fatigué, on est projeté dans ce pays-là. Et puis il nous accompagne, et sur le chemin en voiture, bah, tu te confrontes à toute l'Inde des villes, aux familles qui dorment par terre, à toute la pauvreté, tout ce que tu peux ressentir très vite. Et on arrive dans une auberge, alors on est voyageurs, donc en fait on sur notre budget, donc la première nuit était pas, c'était pas extraordinaire,
c'est pas grand luxe,
comme lieu. Mais voilà, mais on se projette tout de suite dedans. Si t'as peur, tu le fais pas. Si t'essayes de le faire en limitant les risques, et bah tu te rends compte que c'est possible, et tu te rends compte qu'avec un peu de bienveillance, avec un peu d'accueil positif et avec un peu d'ouverture d'esprit, ça se passe bien.
Ça se passe. Oui, donc en fait, ce qui fait la différence, c'est la façon dont tu vas interpréter les choses, comment tu vas prendre la situation. C'est est-ce que j'ai peur et je me sens en danger et du coup ça se passe pas super bien, ou est-ce que je saisis la situation finalement comme une opportunité et je suis ouvert et j'y vais en fait.
Et j'y vais, ouais. Et j'y vais, avec toujours une notion de risque que tu limites.
Oui. Oui.
Tu vois, c'est comme ça, deux jours après, on arrive à Goa en train de nuit, le train s'arrête à la gare de Goa, on a passé la nuit dans le train en Inde avec tout ce que ça représente, mais c'était magique. On descend du train, on se rend compte qu'on a oublié un sac dans le train, un petit sac. Donc je dis à mon fils aîné, bah, tu remontes dans le train, on était sur le quai, tu vas vite le chercher, il est juste à côté de la porte. Et au moment où il remonte et il disparaît dans le wagon, le train se remet en marche. Et donc voilà, donc là tu réagis,
tu as peur ?
Non, même pas, tu sais, même pas, parce que t'es sur place, t'es là, devant le train qui part en Inde part à 2 à l'heure, les portes sont jamais fermées, donc tu l'appelles, tu poses ton sac, tu commences à marcher à côté du train, prêt à monter pour aller le chercher, et lui il revient, et redescend, quoi. Et ça se limite, et ça dure 30 secondes, 30 secondes où tu peux te dire tout peut se passer, mais au final rien s'est passé parce que il n'y avait pas d'élément de dangerosité.
D'accord. Et tu penses que si à ce moment-là tu avais eu peur, les choses se seraient passées différemment ?
Je pense que si j'avais eu peur, je pense que la suite du voyage aurait été très difficile. Je pense que la suite du voyage aurait été très difficile parce que si tu te laisses guider par cette peur-là, tu passes à côté de beaucoup d'autres choses. Et en fait, tu te rends compte que tes enfants ont une capacité d'adaptation et une puissance d'action qui est juste incroyable que tu ne
présupposes pas.
Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors que si en retirant cette peur-là, et ben t'arrives à les mettre dans une situation où tu les vois vraiment en confort. Hein. On les a jamais mis en danger. Hein. Tu les vois vraiment en confort. D'accord. Et je pense que c'est vraiment la plus-value, si tu veux, la valeur ajoutée de ça, c'est ça se mesure très concrètement. Quoi. C'est, tu les vois.
Bon, alors là, tu viens de me faire palpiter. Hein. Donc, du coup, je vais me demander si moi, je suis prête pour un tour du monde. Est-ce que cette capacité-là que tu as à pas avoir peur, justement, dans les situations, tu la connaissais d'avant ou est-ce que tu t'es un peu surpris toi-même de réagir de cette façon-là ou pas ?
Je pense que je la connaissais d'avant. Je pense que je la connaissais d'avant, mais maintenant, je suis capable d'en parler. Je D'accord. suis capable de les... Je l'ai expérimenté vraiment.
Et quelqu'un qui aurait des doutes... Qui se demanderait justement, est-ce que moi je suis capable de réagir comme ça, d'avoir ce sang-froid, de ne pas avoir peur ? Qu'est-ce que tu t'aurais envie de lui dire ?
Ben écoute, je ne vais pas paraphraser ce que disait Margot pendant la conférence, mais c'est qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas peur quoi ? Et si je n'avais pas peur, je ferais quoi ? C'est vraiment une question essentielle. Alors après, ça ne veut pas dire que je suis capable de le faire. Après il y a la phase de décision, la phase de mise en action, mais déjà avoir ce type de réflexion. Et puis après il ne faut pas aller chercher non plus l'exploit, ça peut être tout simplement une action, j'ai pas peur, je vais aller voyager dans ce pays que je ne connais pas, en étant ouvert à ce que je peux recevoir. Et c'est juste ça. Quoi.
Okay. Et tu disais tout à l'heure, moi je refuse la théorie de ceux qui disent « Oh là là, vous avez eu de la chance de faire ça ». Qu'est-ce que tu réponds à ça ?
Je dirais qu'on n'a pas eu de la chance, je dirais qu'on a décidé. Mmh. On a décidé. C'est une différence fondamentale. Mmh. Les gens qui disent « Vous avez eu de la chance d'avoir fait un tour du monde », oui. Mais enfin, on a fait des compromis. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. Il y a des choses qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on a fait ce voyage-là. Il y a des choses, par contre, à l'inverse, on a aussi
beaucoup de choses.
Mais évidemment, nous, ça a été des contraintes. Ça a été des contraintes notamment financières. Donc, c'est des choix. En fait, si on se dit que c'est qu'une question de chance, ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire qu'on retire à chacun la capacité de décider pour soi.
La liberté de décider. On laisse reposer notre vie à la chance, toi,
c'est ça.
D'accord.
Donc je ne dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais je pense que si vraiment les gens ont envie de voyager, aujourd'hui c'est assez facile, mais il faut accepter effectivement de renoucer à autre chose.
Ok. Et alors juste pour quand même boucler ma question sur l'avant, le pendant et l'après. Donc l'avant on a parlé, du deuxième, hein, je suis sur le deuxième tour du monde, le pendant aussi. L'après, comment ça se passe, ce retour-là du deuxième tour du monde, comment ça s'est passé ?
Eh bien écoute, ça s'est très bien passé pour toute la famille, très contente de revenir, très contente de partager, avec beaucoup de choses positives qui ressortent, dont on parle régulièrement. Et en ce qui me concerne, ça a été le début de l'aventure entrepreneuriale, ça a été la création d'une société, et ça a été la volonté de donner du sens encore plus de sens à mon projet professionnel. Et ça vient du voyage aussi.
Ouais, alors justement c'est en ça, je voulais y venir justement à ça. Donc là tu parles de l'activité que tu as aujourd'hui, hein, donc l'entreprise que tu as aujourd'hui, tu peux nous en toucher quelques mots ?
Oui, donc j'ai créé une société qui s'appelle Le Disque Bleu, qui a pour ambition de proposer une nouvelle expérience salariée. Pour remettre l'entreprise au cœur des territoires comme un acteur positif.
D'accord.
L'ambition étant de faire en sorte que l'entreprise soit un lieu d'activité, de performance, mais aussi un lieu de développement durable, un lieu de responsabilité, un lieu d'humanité. Quoi.
D'accord.
Donc je développe des solutions pour penser autrement le monde du travail avec une ambition durable.
Donc ce sont des solutions qui s'adressent aux entreprises,
oui.
pour les entreprises et pour les salariés.
Exactement.
Du coup. Okay. Toutes les entreprises ou tu as une...
Toutes les entreprises dans la limite de ce que je peux faire. D'accord. En étant tout seul.
Okay. Et justement, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que ces deux tours du monde t'ont apporté ? En gros, est-ce que tu penses que ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais de cette façon-là, parce qu'il y a eu ces deux tours du monde dans ta vie ? Et voilà, enfin, quel impact ça a eu dans ta vie et la façon de faire les choses aujourd'hui ?
Eh ben, le premier impact, c'est de la confiance. C'est-à-dire, j'ai fait ça, donc je sais, je connais, je me connais, je sais en quoi ça résonne pour moi, et donc ça me conforte dans mes choix et dans mes décisions d'aujourd'hui. Mm-hmm. La deuxième chose, c'est la volonté d'ouverture, c'est se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, mm-hmm. Qu'il y a des gens qui vivent dans d'autres pays, mm-hmm. qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous, mm-hmm. Qui n'ont pas du tout la même façon de vivre que nous, mm-hmm. qui n'ont pas du tout le même lien à la solidarité, à la consommation, à la religion, etc. Et donc à vouloir faire en sorte d'apporter soi-même quelque chose qui s'applique à tous et pas juste. Mm-hmm. Première chose, et la deuxième chose, c'est qu'on partage tous quand même ce même univers,
ouais.
et que les ressources sont quand même limitées, mmh. et qu'il est nécessaire d'en prendre conscience, quoi. Mmh. Et donc ça remet en question beaucoup de choses dans sa manière d'être en tant que citoyen et en tant qu'acteur, quoi. Donc, c'est des valeurs en tout cas qui sont portées grâce au voyage.
Est-ce que tu penses que tu en serais là aujourd'hui au même endroit si tu avais pas fait ces tours du monde?
Non.
Qu'est-ce qui serait différent finalement ?
Bah, je pense que je serais encore salarié dans une entreprise et que mon objectif serait de gagner suffisamment d'argent pour rembourser la maison. Et je caricature un peu, mais je pense que ça serait ça, quoi. Okay. Je ne serais pas aujourd'hui. J'aurais pas des responsabilités dans des associations, on serait pas assis tous les deux en train de se parler, je rencontrerais pas autant de monde intéressant, j'aurais pas une vie aussi une vie personnelle et professionnelle aussi enthousiasmante.
Aussi riche. Justement, tu parles à l'instant de rembourser la maison, c'est aussi une question, on a parlé par exemple de l'éducation des enfants qui peut être un frein. Il y a une question que les gens se posent beaucoup, et moi la première, hein, j'avoue, j'assume complètement aussi mes positions là, mais c'est cette notion de financièrement, comment on assure de faire un ou deux tours du monde. Tu me disais que vous aviez un appartement, une maison à l'origine.
Oui.
Financièrement, comment ça se passe? Après, tu rentres pas forcément dans le détail.
Non, mais c'est assez simple. C'est assez simple. Je dirais qu'un premier voyage d'un an à deux, c'est compte tenu de notre voyage à nous, hein, de la manière dont on l'a fait, avec les activités qu'on a faites. Je dirais que t'es sur une voiture neuve, quoi. T'es sur le niveau d'une très belle voiture neuve. Et quand on part à 5, t'es au niveau d'une grosse voiture neuve.
Grosse voiture neuve, d'accord.
Avec tout confort, quoi. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui.
Et du coup, tu fais comment ? Enfin, vous avez fait comment ? Tu fais un emprunt ?
Non, parce que la première fois, on a vendu un appartement, et que du coup, il y a eu un peu d'argent de côté et qu'on a utilisé à ça, qu'on a utilisé pour ça. Et puis la deuxième fois, on a vendu une maison.
D'accord.
Donc pareil, on a eu de quoi financer ce voyage de 6 mois.
D'accord.
Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre par rapport à la chance, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est en location et on n'a pas la voiture neuve.
C'est ça, c'est-à-dire que quand tu reviens, quand tu disais tout à l'heure, on a beaucoup de choses parce que de par les voyages, on a vu des choses, on a découvert des choses, etc. Mais quand on revient, du coup, on est peut-être à un point... différent que si on était resté là, où là on aurait
et c'est là où c'est intéressant, et c'est là encore une fois, l'idée n'est pas de donner des leçons, si tu veux,
mais
c'est vraiment de se poser les questions, quoi.
Qu'est-ce qui est important pour moi, d'avoir la belle voiture et la maison ou d'avoir fait le tour du monde en fait.
Exactement. C'est aussi simple que ça.
C'est des questions relativement simples mais qui justement font parfois peur. On a peur de se les poser, ces questions là
Exactement.
Parce que ça chamboule quand même de se demander.
Oui, bien sûr, ça veut dire
qu'on sort de sa zone de confort.
On sort de sa zone de confort, et puis on sort aussi de ce qu'on avait imaginé, de ce qu'on avait planifié.
De la façon dont on nous a. Les schémas qu'on nous a transmis dans notre éducation.
Exactement. Et dans un monde qui est, je crois, de plus en plus assez normé, si tu veux. C'est-à-dire que le schéma, il est quand même assez clair. Donc quand tu dis, je suis un peu à côté du schéma classique. Il faut être capable de l'expliquer, et c'est pas toujours évident, notamment quand on est parti là.
Il faut se justifier en fait, ça.
Oui, notamment quand on est parti auprès de nos familles la première fois. Mais vous n'êtes pas bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Vous êtes en plein.
Finalement, là, c'est eux qui avaient peur pour vous?
Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. D'accord. La deuxième fois, ils disent, bon, ils...
On s'en doutait.
Voilà. Non, mais c'est ça. Et c'est là où tu reviens vraiment, du coup, à toi, quoi, à ce qui est important pour toi.
Et est-ce qu'ils comprennent maintenant?
Oui, ils comprennent maintenant.
D'accord.
Bien sûr.
Et est-ce que ça veut dire aussi que c'est toi ton schéma, enfin, la façon dont tu élèves tes enfants aujourd'hui? Tu leur apprends à sortir un peu de...
Moi, je suis convaincu, et... si tu veux, que les enfants, aujourd'hui, vont vivre dans un monde qui va être très différent de celui dans lequel on vit.
Ouais,
et que leur principal enjeu, ce sera juste d'être bien dans ce monde-là.
Okay.
Donc, ça veut dire que leur apprendre à être heureux et à s'adapter.
À s'écouter.
À se réaliser soi-même. Et puis à le faire avec d'autres. Et donc, je crois que c'est un peu ça, les piliers d'éducation que moi, je souhaite transmettre à mes enfants. Et le voyage aide à ça.
Est-ce que dans ton parcours, tu as eu un ou plusieurs, je sais pas, mentors ou des personnes qui ont vraiment été inspirantes pour toi? Alors, tu nous as parlé au tout début de deux copines qui rentraient du témoin de mariage, qui rentraient du tour du monde, qui t'ont inspiré, mais au-delà de ces personnes-là, est-ce que tu as eu
Moi, je pourrais te citer des noms, mais en fait, tous ces gens-là ont en commun une liberté d'action.
D'accord.
Et
peu importe le domaine, c'est une forme de liberté.
Et une capacité à mettre les choses en œuvre. Moi, je suis très attiré. Je suis extrêmement bluffé par les gens qui ont décidé quelque chose et qui le font et qui l'expérimentent et qui réalisent un bout de ce qu'ils ont décidé.
Alors justement, ça fait partie des questions que je voulais te poser par rapport à ça. Quel conseil tu aurais envie de donner à des personnes, par exemple, qui auraient envie de réaliser un tour du monde et qui ne le font pas aujourd'hui pour tout un tas de raisons et peu importe, mais en tout cas qui n'osent pas se lancer, qui ne passent pas à l'action, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
Moi, j'ai envie de leur dire rêver, oublier et rêver. L'essentiel pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Alors, on revient toujours, si tu veux, sur toutes ces questions-là, mais elles sont clés. Et si on ne sait pas répondre à cette question-là, c'est de quoi vous rêvez, quoi? Quels sont vos rêves? Et en fait, il y a quelqu'un qui disait, ton rêve, c'est d'être écrivain, tu sais quoi? C'est facile, il suffit d'écrire. Et je crois que c'est ça. Ton rêve, c'est de faire le tour du monde, t'as peur? Ok, tu peux commencer déjà par voyager juste à côté de chez toi.
Est-ce que tu as envie d'être drivé par la peur?
Est-ce que tu as envie d'être drivé par la peur? Et ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est facile. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde.
Bien sûr. Ouais.
Commence déjà par aller. Et puis petit à petit, rentre en confiance en disant tiens, j'en suis capable. Et donc l'expérimentation est hyper importante.
Puis là, on parle de tour du monde, mais un rêve, c'est pas forcément un tour du monde ou écrire un livre.
Bien sûr.
Mais ça peut être aussi des choses, voire plus simples ou plus accessibles, mais en tout cas, faire ses rêves, c'est ça?
En tout cas, faire ses rêves. En tout cas, oser expérimenter les choses.
Ok. Est-ce que de tout ton parcours, de tout ton expérience, il y a une grande leçon de vie que tu fais ressortir aujourd'hui et qui te drive, qui te porte, ou que tu as envie de porter, que tu as envie de partager
Mais moi, je vais dire un truc, c'est très simple. En fait, c'est... moi, je te disais que je suis très... très impressionné par les gens qui mettent en action. J'ai fait pas mal de courses à pied dans ma vie, parce que j'ai couru plusieurs marathons.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode.
J'ai quand même d'en parler deux secondes, parce que c'est assez c'est représentatif des choses en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'ai fait une dizaine de marathons sans jamais en préparer un seul. C'est-à-dire que l'objectif n'était pas la performance.
D'accord.
L'objectif était de vivre l'instant. Donc, on n'est pas dans la peur de rater, parce qu'il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'enjeu. Le seul enjeu, c'est de ne pas vivre l'instant. Et donc, à partir du moment où on se dit, J'y vais parce que je veux être là et je veux vivre ce moment-là et je veux prendre le temps de vivre ce moment-là. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'échec. Le seul objectif est de vivre. Alors, ça fait des marathons qui durent longtemps, mais c'est pas grave. Parce que l'objectif, c'est
de prendre le temps. Tu les as fait en combien de temps tes marathons?
Ça dépend, entre 4h30 et 6h. Donc, on est loin de la performance.
D'accord. Ce que je venais chercher,
c'était de vivre l'expérience.
Pour autant, quand même, il y a une notion de sécurité, malgré tout, dans un marathon, parce que tu mets quand même ton corps à rude épreuve.
Oui.
Enfin, je veux dire, on en voit des gens qui tombent sur le bord des routes, donc il y a quand même une notion de sécurité pour soi-même, donc ça, oui. Tu y penses aussi ou ça
mais
vient tout seul?
Mais tu y penses aussi, même quand tu voyages, bien sûr, tu penses aussi aux risques. Mais les risques, comme disait Margot, l'idée, c'est de la prudence.
D'accord.
Donc je suis prudent, je suis bienveillant avec moi-même, je ne vais pas m'infliger des choses qui vont me mettre en risque ou qui vont mettre les autres en risque, mais ça ne m'empêche pas de m'autoriser à vivre ça.
Et je pense que c'est ça. J'ai pas peur, je suis prudent en fait.
Je suis prudent, je suis prudent et je m'autorise à vivre ce moment-là. Parce que j'ai envie de le vivre et je, il n'y a pas de peur d'échec. Parce que l'enjeu est juste de le vivre. Donc je le termine, je le termine pas. Je mets longtemps, je mets pas longtemps. Je suis 10 000e ou je suis premier. C'est, peu importe. J'aurais vécu ce moment-là. Et j'ai osé expérimenter ça. Et ça, c'est hyper enrichissant. C'est pour ça que je rebondis là-dessus quand tu me parles de ça, parce que je pense que c'est vraiment
ma leçon de vie, c'est ça.
C'est dire le seul enjeu, c'est de vivre le moment présent.
D'accord.
Donc il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur, parce que de toute façon, je vais le vivre.
En fait, c'est ça l'objectif. Il n'y a pas un objectif, par exemple, on parlait des marathons, de faire un temps ou d'arriver dans le classement à tel niveau. Le seul objectif, c'est de vivre le moment.
Oui.
Donc à partir de là, tu ne peux pas te planter.
Non.
Puisque de toute façon, le moment, tu vas le vivre.
Exactement.
Et tu vas en profiter.
Exactement.
C'est ça.
C'est ça, ouais.
Ça semble tellement simple, dit comme ça.
Écoute, oui, mais en expérimentant, c'est assez facile à expérimenter, je le crois, à tout point de vue. On n'est pas obligé de se lancer dans un marathon. Mais ça permet de dédramatiser
la situation. La chose. Ok. Est-ce que tu aurais une source d'inspiration à nous recommander qui, toi, t'as apporté dans ton parcours, un livre, un film, je sais pas, une citation, enfin quelque chose qui t'a
les citations, il y en a tellement et elles sont souvent à double sens, enfin c'est assez compliqué. Je pense qu'il y a j'en ai pas là tout de suite de citations, mais il y en a qui peuvent être très inspirantes. Moi, en ce qui me concerne, alors c'est un peu particulier, mais c'est un livre effectivement de Bernard Moitessier qui s'appelle La longue route.
D'accord.
Et en deux mots, premier tour du monde à la voile en 1968, il est premier.
D'accord.
Il va gagner. Mais au moment de remonter l'océan Atlantique pour arriver en Europe et passer la ligne d'arrivée, il met un coup de barre à l'est et il repart pour un deuxième voyage.
D'accord. Et volontairement, consciemment,
il veut pas gagner. Il refuse la victoire. C'est pas ça que je veux. Et ce que je veux, c'est continuer à naviguer. Et ce que je veux, c'est pas retourner en Europe. C'est aller en Polynésie. Et donc voilà. Donc il passe 10 mois en mer.
D'accord.
Ça donne un livre. Ça donne un autre regard.
Okay.
Qui n'est pas forcément une leçon de vie, mais qui est assez éclairant. Et il vit ce qu'il a décidé de vivre.
D'accord. Donc ça, c'est un livre que tu as lu...
J'ai lu quelques fois.
Plusieurs fois, d'accord. Tu peux nous redire le titre?
Alors, ça s'appelle La longue route.
D'accord.
La longue route de Bernard Moitessier.
D'accord. Bon, ben, je mettrai les notes, les références dans les notes de l'épisode. Écoute, je te remercie pour tous ces partages.
Merci
encore
à toi,
tu
Catherine.
Tu m'as fait voyager. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu aurais envie de partager ou d'autres sujets qu'on n'aurait pas abordés
Est-ce que
je te réinvite sur un prochain épisode?
Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de discuter avec toi.
Mais écoute, merci. Pour les auditeurs qui auront envie de te suivre peut-être dans tes nouvelles aventures, est-ce que c'est possible de le faire sur les réseaux sociaux?
C'est possible de le faire sur les réseaux sociaux.
Comment on peut faire pour te contacter
sur Facebook, très facilement, sur mon site internet, ledisquebleu.com.
D'accord.
Par exemple.
Si les gens ont des questions à te poser éventuellement, tu es ouvert
à... Je suis ouvert à toute communication, toute rencontre.
Ça aurait été un petit peu incohérent à la fin quand même de dire que tu n'étais pas ouvert avec le discours que tu as eu juste avant. Et du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser hein, et d'ouvrir pour la suite, c'est tout simplement, mais à quand le troisième Tour du Monde?
Ah bah alors le troisième, oui, ça viendra. Ouais, ça viendra. Il sera fondamentalement très différent des précédents.
Enfin, est-ce qu'il y en aura un déjà?
Alors il y en aura un, ce ne sera pas forcément un Tour du Monde.
D'accord.
Ce sera quelque chose à l'étranger, ce sera quelque chose qui aura une dimension sportive ou humanitaire et ou humanitaire.
Un 11e marathon, non? Peut-être.
La feuille est blanche pour l'instant.
La feuille est blanche, d'accord. Mais il va se passer des choses.
Il va se passer des choses.
Il va forcément se passer des choses et on attend de voir quoi.
Exactement.
Bon, écoute, on va suivre de ça de très près et puis ça me permettra d'avoir l'occasion de te réinviter pour que tu
Avec
nous
plaisir.
Expliques tout ça. Merci beaucoup Sébastien.
Merci Catherine.
À bientôt.
À bientôt.
Rebonjour à tous. J'espère une fois de plus que cette interview vous a plu et qu'elle vous aura fait voyager. J'avoue que j'avais très envie de faire mes valises à l'issue de cette rencontre. Mais retour à la réalité et comme convenu, je vous propose de partager avec vous une clé sur le thème des peurs. Avec Sébastien, on a échangé sur le fait que bien souvent, nous sommes drivés par nos peurs et qu'elles conditionnent nos comportements. En réalité, la peur est une émotion primaire qui, à l'origine, est là pour nous prévenir d'un danger et nous permettre de nous protéger et de nous mettre en sécurité. Dans ce cas, la peur est une information utile qu'il est vraiment important de garder. Et il y a en général trois réactions possibles dans une situation de peur. La première, c'est la fuite, donc le fait de fuir la situation ou même de l'éviter pour ne pas déclencher cette émotion. La deuxième réaction possible, c'est la défense, notamment par l'agressivité. Et la troisième réaction possible, c'est l'inactivité, c'est-à-dire le fait de ne rien faire et de rester figé face à la situation. Donc si je résume, la peur est là pour nous informer d'un danger et nous permettre de nous protéger. Mais il arrive aussi que cette peur ne nous soit pas utile, dans le sens où elle va nous empêcher d'avancer dans la vie, très souvent parce qu'on a surévalué le danger. Je reprends l'exemple de Sébastien dans l'interview, lorsqu'il nous a raconté l'épisode de son fils dans le train en Inde. Si Sébastien avait eu peur à ce moment-là, il le disait lui-même, il n'aurait sûrement pas poursuivi son tour du monde et ça l'aurait donc empêché d'avancer. Le fait de ne pas avoir peur lui a permis d'agir le plus sereinement et très certainement le plus efficacement possible. L'idée n'est pas non plus de sous-évaluer un danger, mais plutôt d'en trouver le juste milieu, le juste équilibre entre sous-évaluer et surévaluer. Pour réussir à faire cela, ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez une situation sur laquelle vous avez envie de travailler aujourd'hui et de réaliser un tableau qui sera composé de 4 colonnes. Dans la première colonne, vous allez préciser quelle est la situation en question, quel est le sujet. Je vais moi-même prendre un exemple concret pour illustrer et je vous propose de prendre l'exemple d'une personne qui a vraiment, vraiment envie, qui rêve de déménager et de changer de région. Donc vous indiquez cette situation dans la première colonne. Ensuite, dans la deuxième colonne, je vous invite à lister votre ou vos peurs qui sont associées à cette situation. Dans mon exemple, ça pourrait être la peur de ne pas retrouver de travail, par exemple, ou la peur de ne pas être bien accueilli, pour ne pas dire rejeté, par les habitants de cette nouvelle région, et donc de ne pas réussir à faire sa place. Ensuite, dans la troisième colonne, je vous invite à identifier les conséquences surévaluées, voire totalement irrationnelles que vous associez à cette ou ces peurs. Par exemple, je vais rester au chômage pendant plusieurs mois, voire des années, je serai forcée de prendre un travail purement alimentaire qui ne me plaît pas, ou encore pour le fait de ne pas être accueillie, je vais rester isolée chez moi, sans amis, loin de ma famille, et c'est la déprime assurée. Une fois que tout ceci est posé, je vous propose d'intituler la quatrième colonne « Observation raisonnable ». L'idée ici n'est pas de nier le danger, mais de remplacer la peur par de la prudence et de réfléchir à ce dont vous avez besoin. L'idée est vraiment de prendre du recul et de transformer ces peurs en esprit critique, je dirais, pour vous permettre d'agir avec prudence et en toute écologie vis-à-vis de vous-même. Dans le cas de mon exemple, dans la quatrième colonne, ça pourrait être « Je peux envisager des étapes à mon projet professionnel, comme par exemple je me renseigne sur le marché du travail dans cette région, bien en amont de mon départ. Je me fais accompagner par un professionnel dans le cadre de ce changement. » Ou encore, je réfléchis à ce que je recherche exactement et aux concessions que je suis prête à faire au niveau professionnel. En ce qui concerne l'accueil par les habitants de la région, je peux peut-être m'y rendre en vacances à plusieurs reprises pour commencer à tisser un réseau relationnel ou me renseigner à la mairie de la commune qui me plaît pour voir ce qu'il est organisé pour l'accueil des nouveaux habitants, ou bien demander à des amis qui ont de la famille qui habite dans cette région de nous rencontrer pour nous conseiller ou nous orienter. Enfin bref, tout ceci ne sont vraiment que des propositions et des suppositions. À vous de compléter cette quatrième colonne comme bon vous semble et avec vos propres idées. En quelque sorte, cette dernière colonne peut être une forme de plan d'action et d'outils qui vont vous permettre de mettre en œuvre concrètement votre projet ou votre rêve. Je vous rappelle donc les quatre colonnes de l'exercice. Dans la première, vous indiquez la situation ou le sujet sur lequel vous voulez travailler. Dans la deuxième, vous indiquez là où les peurs qui y sont associées. Dans la troisième colonne, les conséquences surévaluées, entre guillemets. Et dans la quatrième colonne, ce que j'ai appelé les observations raisonnables, ou en d'autres termes, le plan d'action. Cet exercice, il a pour objectif de vous faire prendre conscience de la situation et vraiment d'accueillir vos peurs, de prendre du recul et de prendre des décisions qui vous conviennent en pleine conscience, sans être finalement piloté par vos peurs. Voilà pour ce deuxième épisode, j'espère qu'il vous aura inspiré. Pour conclure, si vous souhaitez soutenir ce podcast, je vous invite tout simplement à vous abonner sur la plateforme ou l'application de votre choix et à y mettre une note ou un commentaire. Et je vous suggère aussi de me faire vos feedbacks pour me permettre également de le faire évoluer et de répondre à vos besoins. Et enfin, si vous souhaitez approfondir les sujets qui sont abordés dans ce podcast, c'est tout à fait possible au travers des différentes formules d'accompagnement que je propose. Et je vous invite à vous rendre sur le site www.cbcoach.fr ou sur la page Facebook CBCoach ou encore sur le compte Instagram CBCoach51 et vous y retrouverez toutes les informations nécessaires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.